500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge.
Bonjour Stéphane Diagana.
Bonjour Mehdi.
Merci beaucoup de venir sur l'émission Bleu Blanc Bouge. C'est un cadre assez particulier. On est dans les studios de Orso Media qui nous invite et on est super heureux en tout cas de te recevoir ici. Juste avant que tu puisses te présenter, même si on te connaît tous quand même, est-ce que tu peux nous citer le souvenir de gamin qui t'a marqué dans le sport quand tu étais petit?
Alors merci en tout cas Mehdi de ton invitation. Oui, moi le souvenir de gamin qui m'a marqué très clairement, c'était les Jeux Olympiques de 84, Los Angeles, Carl Lewis. Et chaque fois, je voulais voir ses nouvelles médailles, comme il les collectionnait avec une grande facilité. On le rappelle pour les plus jeunes, quadruple champion olympique, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres sur longueur. Et puis d'autres médailles ensuite. Donc voilà, c'était... Moi, je me levais la nuit pour regarder ça avec le décalage horaire. C'était vraiment incroyable pour moi. La cérémonie de clôture, je me rappelle bien aussi. Donc, c'est mes premiers souvenirs de télé. J'avais déjà commencé l'athlétisme depuis 5 ans.
Okay.
Mais c'est la première fois que je voyais des images d'athlétisme à la télé, vraiment.
Et attends, tu t'es dit, je veux être à sa place un jour ?
Eh bien, pas forcément. Ça me paraissait tellement inaccessible, incroyable, ouais, que j'étais juste un spectateur comme okay, tout le monde. Pas du tout de projection. Mais je disais, waouh, c'est
quel
magnifique
âge,
quand même.
Quel âge t'avais ?
J'avais 15 ans.
15 ans.
Donc j'avais déjà pas mal commencé, mais j'étais très loin de ça. J'étais un bon gamin, mais pas forcément extraordinaire.
Okay.
Et ça me paraissait être un univers parallèle pour moi. J'avais pas l'impression qu'avec mes déjà 5 ans de pratique, je cheminais finalement vers ça.
Super. Ouais, et événement marquant, tu m'étonnes. Du coup, je te laisse te présenter. Stéphane Diagana.
Alors Stéphane Diagana, j'ai aujourd'hui, faut le dire, 54 ans. Je suis né en 1969 dans l'Aveyron. Du fait de mes attaches familiales maternelles, qui est du Tarn, ma maman.
Okay.
Donc je suis dans l'Aveyron. Et puis les origines africaines, Afrique de l'Ouest par mon père, pour beaucoup, donc Mauritanie, Sénégal.
Okay.
Un peu d'Afrique centrale par ma grand-mère maternelle aussi.
Okay.
Donc voilà, et puis voilà, j'ai grandi en région parisienne d'abord. Et puis voilà, athlète, donc double champion du monde d'athlétisme. 400 mètres haies d'abord en 97 à Athènes. Et puis 4 x 400 mètres au Stade de France à Paris en 2003.
Incroyable comme souvenir. Tu veux nous partager, tu les as beaucoup partagés, je pense, tes souvenirs. Tu as fait pas mal d'interviews, mais aujourd'hui, à 54 ans, c'est quoi le souvenir de ces deux très grands titres et qui ont fait briller la France, clairement?
Oui, c'est le souvenir de ces titres, bien sûr, mais en fait, ils sortent pas de nulle part. C'est la conséquence, ou la continuité de beaucoup de choix, beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre, de belles rencontres aussi.
Ouais.
Et donc finalement, il symbolise un peu tout ça. Et je ne m'arrête pas au titre seulement, je m'arrête vraiment à tout ce vécu et cette chance que j'ai eue de pouvoir vivre ce parcours-là, cette passion avant tout.
Bien sûr, travail d'équipe.
Bien sûr, exactement. Et puis en matière de développement personnel, de connaissance de soi, de son rapport à l'autre aussi... c'est une chance extraordinaire de pouvoir être accompagné comme je l'ai été par des entraîneurs qui étaient avant tout des éducateurs et puis par toutes les personnes qui ont contribué à ces succès.
Justement, c'était le premier club dont tu parlais tes 5 premières années.
Alors, quel club ? Donc moi, j'ai commencé dans le Val d'Oise,
ouais,
à Cormeilles en Parisie, sur les hauteurs, un petit stade en hauteur. Il faisait très froid l'hiver, où la neige restait, où j'ai déjà déneigé 100 mètres de couloir pour pouvoir faire ma séance avec des potes.
Okay.
J'ai même couru sur la glace avec mes pointes parce que ça restait un peu, mais que des bons souvenirs. Et puis après, à Franconville, un plus gros club, un peu plus structuré, pendant de très nombreuses années, l'entrée à l'INSEP à l'âge de 19 ans, jusqu'à la fin de ma carrière, à 35 ans, avec la...
Purée.
Avec, 16 ans de travail avec le même coach, Fernand Hurtubise.
Alors, on embrasse le club de Franconville, il existe toujours ?
De Cormeilles en Parisie, qui existe toujours.
De Cormeilles en Parisie.
De Franconville, bien sûr.
Ouais. Et puis ton entraîneur.
Et puis mon entraîneur et toutes ces belles années à l'INSEP et tous les athlètes, hommes et femmes, sprinteurs, hurdleurs, hurdleuses, sprinteuses, avec qui j'ai partagé ce parcours et à qui je dois beaucoup aussi.
Merci en tout cas. Ensuite, sur tes expériences professionnelles, bien sûr, le sport a été une très grosse partie. Qu'est-ce qui se passe après ta carrière ? c'est quoi les expériences en tout cas sur lesquelles tu capitalises, et puis on va revenir sur aujourd'hui tes activités, notamment le rapport que tu as rendu avec Marie-Georges Buffet, pour faire le lien, puisqu'on est sur Bleu Blanc Bouge, avec la promotion du sport, avec la question du sport, notamment dans les territoires. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, et pour nos auditeurs, c'est voilà, tes expériences, qu'est-ce que t'en as, quels ont été tes enseignements, tout simplement, comment aujourd'hui tu t'en sers sur ces expériences passées, et puis voilà, on enchaînera après sur ton activité aujourd'hui.
Alors l'expérience, comme je disais, c'est énormément d'apprentissage, hein, le sport de haut niveau, on dit que c'est une école de la vie, mais j'en suis convaincu, et tous les sportifs sont convaincus que la vie, non, ne s'apprend pas assis sur une chaise. Voilà, j'ai l'impression que c'est une conviction pour beaucoup, vu comme on enseigne. Mais dans d'autres pays, on n'enseigne pas comme ça. On enseigne par le théâtre, on enseigne par la danse, on enseigne par le chant, on enseigne par le sport. Et chez nous, on est très, très en retard sur ces apprentissages-là qui contribuent énormément aux soft skills, comme les appellent les anglo-saxons, toutes ces compétences qui vous permettent d'interagir avec les autres aussi dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, ça c'est une conviction. Je sais ce que je dois au temps passé sur les bancs de l'école. Ouais. Et j'ai été étudiant en parallèle pendant ma carrière sportive en dédoublant mes années, hein, bien souvent. Donc j'ai fini ma carrière en même temps que mes études à 35 ans. mais bon, c'est pas un problème parce que j'aimais les deux. Donc,
et puis c'est très bien d'être sorti avec le bagage aussi et les études.
Oui, c'est à la fois,
c'est hyper important.
C'est à la fois un plus pour l'après, mais je suis convaincu que ça a été un plus pendant ma carrière en termes d'équilibre, en termes de sérénité, pour faire les bon choix en fait. Donc, et j'avais un entraîneur qui était convaincu de ça aussi. Donc voilà, et après ma carrière, j'ai essayé de retrouver un domaine dans lequel je pourrais m'investir avec passion. C'est quand même le dénominateur commun de mes 20 ou 30 ans d'athlétisme. Ça a été quelque chose d'essentiel, et dans ma vie aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose d'essentiel, des choses qui ont du sens, des choses qui me donnent envie de me lever le matin, et des choses qui m'amènent à collaborer, à découvrir des gens qui viennent d'autres univers, parce que le sport de haut niveau vous amène aussi sur ces terrains-là. Quand vous cherchez à exceller, il faut vous entourer, et parfois sur dans des domaines auxquels vous n'avez pas pensé forcément, et ça vous donne de l'ouverture. Donc j'aime l'innovation, j'aime tout ça parce que ça vous fait, ça vous oblige à sortir de votre périmètre et toujours à vous enrichir de nouvelles rencontres.
Super. Et justement, là, aujourd'hui, alors, c'est quoi tes casquettes, on va dire, professionnelles, qu'est-ce que tu fais?
Alors, mes enfants, ils galèrent toujours, ils me disent à l'école, quand ils doivent remplir profession du père. ils sont toujours très embêtés quand leurs copains leur demandent. Bon, en fait, j'ai plusieurs activités. J'ai une partie qui est la plus visible, qui est celle des médias, mais qui occupe pas l'essentiel de mon temps. Avec France Télévisions et le commentaire des compétitions d'athlétisme en équipe nationale, donc championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. Cet été à Paris et peut-être Jeux Paralympiques aussi pour l'athlétisme, comme je l'avais déjà fait à Rio. Et puis après, je travaille, j'ai un parcours en école de commerce aussi, donc j'accompagne des entreprises qui sont investies dans le domaine du sport et en particulier dans le domaine du running. Voilà, sur des projets, différents projets dimension marketing ou sports marketing. Et puis après, j'ai une activité de conférencier en entreprise assez importante.
Ok. Et alors, ça a été quoi le cheminement pour cette collaboration que tu as faite avec, avec Marie-Georges Buffet, ce rapport? Tu vas peut-être nous en parler.
Oui, en fait, j'étais sollicité en tout début, je pense que c'était au mois de février dernier, peut-être. Donc, il y a un an, par Amélie Oudéa-Castéra, donc la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'Éducation nationale, pour rajouter maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Voilà, qui m'a proposé de travailler avec Marie-Georges Buffet, de co-présider un comité pour établir des recommandations sur la base, bien sûr, de nombreuses auditions en matière de rénovation des pratiques dans le mouvement sportif, sur tout ce qui concerne la vie démocratique, la gouvernance, la protection des pratiquants et des pratiquantes, notamment vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles, mais pas que. Et donc voilà, ça a été un travail qui s'est étalé de la fin mars,
j'allais te poser la question.
Fin mars 2023 au début décembre 2023.
D'accord. Et c'est quoi concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que toi tu as dû faire de manière opérationnelle en fait dans ces missions?
Alors on avait un panel de quoi, un panel, des comités quoi, je dis, assez large de membres du comité pour justement organiser cette réflexion, la nourrir, et puis prendre part aux auditions. Hein. C'est un gros travail d'audition, d'acteurs du sport, d'acteurs extrasportifs qui sont confrontés aussi aux problématiques de préservation de l'éthique, aux problématiques de gouvernance, aux problématiques de contrôle, contrôle interne, contrôle externe. Et bon, le mouvement sportif a visiblement et manifestement du retard sur ces questions-là, mais parce qu'il est porté par beaucoup de bénévoles, par beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la compétence pour pouvoir aborder tous ces sujets. Les entreprises, quand ces sujets, les sujets de responsabilité leur sont arrivés sur les bras, elles se sont staffées avec des professionnels. C'est pas le cas du mouvement sportif, donc on a bien perçu qu'il y avait une compréhension de ces nouveaux enjeux, mais une difficulté à les appréhender correctement et à se structurer autour de ces enjeux en termes de ressources, de compétences. Bien souvent, des problèmes de volonté, il peut y en avoir, mais je crois que la volonté, pour beaucoup, elle était là quand ces enjeux étaient bien perçus. Mais les moyens, pas forcément toujours au rendez-vous. Donc on a fait des recommandations sur tous ces sujets. Et c'était assez passionnant de participer à ces auditions, et aux côtés de Marie-Georges Buffet, en plus, que je respecte beaucoup.
Bien sûr. Du coup, si tu avais un enseignement sur tout ce travail qui a été fait, un conseil pour les territoires, pour des gens qui nous écoutent, en mairie, sur des départements, sur des EPCI, peu importe, ce serait quoi la principale? On va pas faire la liste exhaustive des recommandations, c'est pas le lieu. Il y a toute la documentation. En gros, ce serait quoi ce que tu as retenu qui va le plus pouvoir s'appliquer à des gens qui sont décideurs territoriaux du sport, donc directeurs des sports et élus au sport? Qu'est-ce que tu leur...
En fait, par rapport aux problématiques que l'on a pointé du doigt, que l'on a perçu et que certains avaient bien pointé du doigt avant nous, je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont en place, qui n'existaient pas avant. Je pense aux conférences régionales du sport qui font intervenir les collectivités territoriales, le mouvement sportif, les entreprises, l'État. Et je pense que ça peut être le bon outil pour justement aider et peut-être aider les structures locales, que ce soit des clubs, des ligues, des comités, à se structurer sur ces enjeux-là, à se former aussi, parce que tous les acteurs sont réunis et tous les acteurs sont concernés par ces problématiques. Vous pouvez pas ne pas être sensible à tous les cas de dérive qu'il peut y avoir dans les clubs sportifs quand vous êtes un élu, que vous allouez des subventions et que ces subventions sont mal utilisées, que les clubs n'offre pas certaines garanties en matière de sécurisation de la pratique pour les jeunes. Donc, je pense que là, c'est un outil qui peut permettre de traiter beaucoup des questions qu'on a abordées dans ce rapport. Pas tous, mais là, on parle au niveau local et territorial. Je ne parle pas au niveau fédéral, mais en tout cas, au niveau local et territorial, je pense que c'est un outil qui peut permettre d'apporter les ressources à la fois qui permettront au club de s'améliorer sur beaucoup de ces enjeux, et qui permettront aussi peut-être de contrôler aussi de manière plus forte les pratiques.
Moi, je le verrais bien, en réfléchissant avec toi, mais je verrais bien ce format appliqué à l'échelle en fait encore plus petite, c'est-à-dire à l'échelle de la ville, puisque là, c'est conférence régionale, et je pense qu'il faut prendre cette habitude, effectivement, d'avoir le collège, un peu toutes ces parties prenantes du sport, encore plus à l'échelle micro, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'échelle micro, et donc oui, t'as raison, je te rejoins, il y a un modèle à travailler autour des conférences régionales. Là, on le sait aussi qu'elles ont été, bien sûr, propulsées parce qu'il y a la dynamique des Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Mais dans le cadre de l'héritage, je pense que ça pourrait être bien de redescendre encore un peu plus dans les territoires.
Tout à fait.
Cette dynamique-là.
Voilà, exactement. Le modèle est intéressant, mais c'est sûr qu'après, il faut, un outil qui permette de déployer sur le plan local. Donc, effectivement, une déclinaison de ce modèle-là avec des comités départementaux, des élus locaux, soit des collectivités territoriales ou des villes elles-mêmes. Ouais. Et puis, des représentants de l'État, parce que ça concerne tous les acteurs, quand on regarde de près ce sujet-là. Donc, c'est logique de les faire travailler ensemble et pas en silo sur ces questions-là.
Très clair. J'aimerais qu'on fasse le traditionnel jeu de rôle où on est tous les deux dans un bureau d'un maire. Tu es le maire, tu viens d'être élu. On débute le mandat, on a 12 mois devant nous et on prend une problématique. Donc là, on va choisir par exemple l'obésité. On veut lutter contre l'obésité chez les jeunes. On veut inverser ce pourcentage, donc réduire de 50%, on va dire, l'obésité qui touche les jeunes de notre ville, une ville de 50 000 habitants, on va prendre pour cet exemple. On est jour 1, feuille blanche, toi et moi, je suis ton directeur de cabinet ou ton élu au sport. Et l'exercice, voilà, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment de travailler ensemble, imaginer les choses pour que ceux qui nous écoutent aussi puissent être inspirés, qu'on puisse rebondir et collectivement en tout cas s'entraider. Qu'est-ce que toi tu ferais en premier avec ce qu'on vient de se dire, avec ta connaissance du sport, ton parcours bien sûr personnel, tout ce que tu as pu observer dans le monde du sport, la promotion du sport, comment on prend des publics éloignés, comment on les rapproche vers la pratique, comment on crée des déclics. Toi, ce serait quoi, même si on ne connaît pas toutes les aspérités techniques du métier d'un maire, mais en tout cas, si toi tu n'avais pas de limites, pas de barrières, ce serait quoi les étapes en tout cas que tu mettrais en place pour cet objectif, on le rappelle, donc inverser de 50% l'obésité chez nos jeunes dans notre ville.
Alors la première chose hein, quand on veut changer à mon avis et qu'on veut toucher certains publics, c'est déjà d'informer,
ouais,
et de sensibiliser. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées, sensibilisées, ou alors qui ne le sont pas de manière adéquate, avec des modes de communication qui ne sont pas adaptés, des canaux de communication qui pas adaptés. Donc réfléchir à comment aujourd'hui on parle ou on ne parle pas à ces publics-là, sur ces questions-là,
très clair.
Comment on le fait, comment on peut revoir cette façon de faire, comment on peut innover dans ce domaine-là pour être plus efficace, et augmenter déjà le niveau d'information et de sensibilisation. Après, il y a des personnes qui sont touchées, sensibilisées, informées, qui sont conscientes, mais qui ne changent pas, hein, on voit bien. Donc, essayer d'identifier parmi ces personnes qui ne changent pas, celles qui auraient envie de changer. Tu as envie de te remettre au sport, tu sais que ce serait bon pour ta santé, mais tu n'y arrives pas, viens nous dire pourquoi. Et là, recueillir des témoignages de ces personnes-là, organiser des focus group de ces personnes-là, dire voilà, où sont les barrières ? Il y a des stades, il y a des offres privées, il y a des... Où sont les barrières pour le volet activité physique ? On sait très bien que l'obésité n'est pas qu'un enjeu de l'activité physique, qu'il y a des enjeux d'éducation, d'alimentation qui sont clés, des problèmes psychologiques parfois qui sont derrière. Donc voilà, il faut avoir une approche multidisciplinaire du problème, mais sur l'activité physique, quels sont tes freins, pourquoi tu n'y vas pas, et donc à partir de ces informations-là, essayer de lever ces freins, de voir quelles sont les solutions et trouver les partenaires qui sont motivés pour essayer d'accompagner. Mais je pense que ça ne peut pas partir d'un état des lieux et d'une approche simpliste, parce que le problème est sans doute complexe.
Ouais, bien sûr.
Et voilà, une fois que l'on a levé ces freins, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Ils sont informés, mais ils ne veulent pas changer.
Bien sûr.
Donc ces personnes-là, les réfractaires, il faut leur laisser le temps. Il y a un moment, peut-être un événement de leur vie qui va faire qu'ils vont passer de l'autre côté, ils vont avoir envie de changer, mais c'est pour le tabac ou pour beaucoup de choses. Il ne faut pas passer trop de temps, malheureusement, une fois qu'on a fait notre travail de sensibilisation et d'information. L'heure passée pour essayer de les faire changer, il en faudrait beaucoup plus en fait qu'une heure, et en très peu de temps, par contre, on peut changer la trajectoire de gens qui ont déjà envie de changer.
J'aime cette idée de la rapidité. Hein. Donc là, je prends la méthode.
C'est un moment, il faut aller concentrer ses efforts sur.
On se donne combien de temps
on peut avoir
sur cette partie focus group, récolte des avis des personnes. On va les chercher. On se donne quoi ? Un mois, deux mois, trois mois ?
Ouais, je pense que c'est plutôt un trimestre à mon avis. Et derrière, une fois qu'on a levé les freins, on identifie, on regarde les moyens, on regarde les ressources qu'il faut réunir,
donc
les partenaires.
C'est un peu plus état de lieu, le mouvement sportif, voilà, tous les partenaires, les professionnels de santé.
Exactement. Okay. Voilà. Pourquoi vous ne les touchez pas ? Quels sont les freins ? Et en fait, je dis ça parce que sur des publics non obèses déjà ou non atteints par le surpoids, on sait très bien que aller frapper à la porte d'une salle de fitness, c'est pas simple,
bien sûr, parce que
les représentations, donc ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire. Donc sur ces publics-là, ils sont encore plus éloignés, il y a encore plus d'obstacles, plus de freins. Donc ce travail est nécessaire, et c'est au moins trois mois, je pense, pour pouvoir. Et puis après, on définit sa feuille de route, on regarde comment on peut intégrer certaines personnes dans des pratiques assez ouvertes, en mettant des programmes un peu spécifique mais qui sont pratiquées dans un environnement, je dirais, plus classique, hein, sans une prise en charge dédiée à 100% pour ces publics-là, okay. pour des personnes qui y sont prêtes. Il y a des gens qui... Et puis, il y en a d'autres, on sait, où il va falloir des sortes de programmes passerelles, où il va falloir que ce soit entre pairs, avec voilà, des gens qui vont se soutenir entre eux, avec, ouais, avec des rôles modèles peut-être qui sont déjà passés par là et qui pourront être très influents vis-à-vis de ces publics-là. Et donc, voilà, après, il y a la prise en charge de ces publics, et puis après, il y a la prévention aussi qui est... voilà, qui, pourquoi aussi on en arrive
on
là,
en arrive là ouais.
Et donc, ce sera intéressant de recueillir dans ces focus group à quel moment j'ai décroché, à quel moment je me suis senti plus capable de faire du sport, ou j'en ai plus l'envie, ou à quel moment je me suis dit non, je ne peux pas y aller dans cet état-là. Voilà, comment on en arrive là aussi. Ça, c'est important parce que c'est bien de prendre en charge les gens qui sont dans l'obésité, mais c'est bien aussi de mettre en place des choses qui permettent d'éviter... que ces personnes...
Non mais très clairement, et en plus j'ai l'impression qu'on est un peu champion sur les rapports, les études pour dire voilà les raisons de l'obésité, on identifie les thématiques, etc. Par contre redescendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les conférences régionales du sport, c'est redescendre à l'échelle de là où on vit les uns et les autres, l'échelle où on vit c'est notre ville, notre quartier, notre village, notre lotissement. Comment tu redescends à cette échelle là effectivement le sentiment de on a compris. C'était quoi tes raisons? Effectivement, c'est très sérieux. Nous, on a envie d'être là, on a envie de mettre des moyens en face. Donc, je pense que ça, ce serait une bonne méthode de... Effectivement, il y a la partie... on recense ces publics-là. Ils sont où? Pourquoi ils ne font pas? On comprend aussi pourquoi ils en sont arrivés là, bien évidemment. L'état des lieux...
Je peux vous donner un exemple assez simple que j'ai découvert l'an passé. En fait, beaucoup de ces enfants, très vite, sont dispensés de PS. Parce que, soit des dispenses, soit parce qu'ils sont en difficulté, donc on tolère, mais ce n'est pas leur rang de service. Ouais. Mais en fait, l'EPS tel qu'il est organisé aujourd'hui, avec des classes importantes, avec des moyens qui sont limités, c'est pas facile non plus de prendre en charge des enfants à besoins spécifiques, que ce soit pour de l'obésité ou pour d'autres choses. Donc, beaucoup d'enfants à besoins spécifiques sont écartés de la pratique. Bon, si on fait un diagnostic territorial avec une prévalence forte de l'obésité, est-ce qu'on continue à faire comme ça, ou est-ce qu'on dit, non, dans les collèges, on a des cours d'EPS un peu, pas de rattrapage, mais adaptés pour remettre les jeunes en confiance par rapport à la pratique de l'activité physique. Et ça se fait. Je l'ai vu à Haï-sur-Somme, près d'Amiens. Avec un enseignant incroyable qui est très très engagé sur ces questions-là et qui a pu avoir sur la dotation horaire globale de l'établissement quelques heures pour pouvoir faire de l'EPS adapté. Et il a dans ses cours, je l'ai vu, je suis allé là-bas, j'ai vu une jeune fille sur un fauteuil, j'ai vu des enfants qui sont TDAH, qui ont des troubles de l'attention, j'ai vu des enfants qui avaient une scoliose, j'ai vu des enfants, et il fait de l'activité physique et sportive adaptée. Et certains gamins reprennent le goût, reprennent confiance et peuvent retourner peut-être à terme à un moment sur des pratiques plus classiques. Donc ça, c'est une approche pragmatique. On a un problème territorial, et si on sait que le décrochage se fait au collège, on met le paquet pour que ces jeunes-là ne décrochent pas, continuent à pratiquer de l'EPS, continuent à avoir confiance en eux et continuent à s'engager dans les activités physiques et sportives.
Je pense vraiment que les professeurs EPS, enseignants de sport, ont le même rôle. Ils sont très importants à l'échelle donc territoriale d'une ville, d'une ville de cité, tout comme les clubs en fait. Je pense que ce sont vraiment des artisans et j'ai l'impression que c'est des communautés. Tu vois, moi pour le développement de Bouge, je pense beaucoup à cette communauté. J'ai pas encore vraiment fait d'initiative. J'ai parlé à Régis Desbons qui est le maire adjoint au sport de la ville du Havre, qui est enseignant, et je vois bien cet ADN qu'ils ont et en fait ce vivier en fait même d'idées très terrain, comme tu viens de nous le citer cet exemple. Et je pense qu'il faut aussi, si on nous écoute dans des villes là aujourd'hui, les décideurs du sport, je pense qu'il faut vraiment, et c'est fait hein, bien sûr qu'ils sont consultés les enseignants, mais je pense qu'il y a vraiment de la créativité à aller chercher. Ils sont hyper moteurs, hyper motivés comme cette personne. D'ailleurs, t'as le nom si...
Alors, il s'appelle Thomas Cuisset et c'est vraiment quelqu'un de passionné et qui veut faire bouger tout le monde, quelles que soient les limitations qu'on peut avoir et Thomas... qui se bat aussi pour garder ses heures et pour que chaque enfant puisse profiter de ses cours de PS adaptés.
Super, on l'embrasse Thomas. On a passé, je pense, les deux premiers trimestres sur cette partie, aller sonder les personnes, ces publics éloignés, ces publics obèses, créer l'écosystème en fait finalement et détecter les motivations avec différentes communautés d'acteurs, les clubs, les enseignants,
bien sûr.
Le territoire bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait après ?
Après, je pense que sur un travail comme ça d'innovation, il faut vraiment être très 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 proche, pas se dire que c'est fait, qu'il n'y a plus qu'à, et justement et que il faut au contraire bien mesurer les écueils, rester dans les écueils, des retours d'expérience, les retours d'expérience des premiers pratiquants pour enrichir et pour lever les derniers freins, parce que ça peut être des freins auxquels on n'a pas pensé tout de suite ou qui ne sont pas remontés avant que la pratique se mette en place. Donc il y a les freins plutôt de représentation, les freins liés au parcours personnel, et puis après il y a les freins dans la pratique. Ah oui, mais concrètement j'imaginais pas que j'aurais tel ou tel problème, donc il faut peut-être revoir et enrichir le programme au fur et à mesure, et toujours avoir des retours d'expérience.
Super.
J'ai eu l'occasion de travailler sur des programmes sport santé à destination de patients, un programme qui s'appelle As du cœur, sur des patients coronariens, et ce qui a fait la force du programme, c'est son enrichissement avec les feedbacks des pratiquants pour essayer de les accompagner du mieux possible.
Ok, il y avait des outils, des méthodes qu'on pourrait justement répliquer sur nous, notre projet.
Oui, des carnets de liaison avec les médecins, par exemple. Des carnets d'entraînement aussi, des outils de planification, parce que on sait très bien que la planification favorise la pratique régulière.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est quelque chose d'important, du soutien téléphonique à la motivation. On a vu que ça avait fonctionné sur ce programme et que c'était un plus, où on va demander quel est votre niveau de motivation aujourd'hui pour l'activité, et on le suit comme avec une échelle de Borg pour noter la difficulté de 1 à 10. Là c'est pareil, mais sur la motivation. Donc des outils de cette nature là permettent de bien piloter les programmes, de voir comment ça s'essouffle la motivation et quels sont les relais. Après, je pense qu'il y a beaucoup aussi un élément qui est essentiel que j'ai pu observer, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire que la maladie, bien souvent, isole, et les activités physiques et sportives sont des occasions de resocialiser, de créer des liens forts, de partager des expériences aussi émotionnelles, avec un peu d'effort parfois.
Ouais.
Mais s'il est suffisamment bien calibré pour ne pas décourager et au contraire qu'on voit les gens progresser, ça c'est important. La mesure est quelque chose d'essentiel, pas la mesure du poids et de la perte de poids, mais la mesure de d'autres paramètres plutôt psychologiques. Nous par exemple sur ce programme on mesurait aussi comme je disais, le plaisir à venir, paramètres psychologiques, paramètres physiques, la fréquence cardiaque de repos. Et pour des patients coronariens, vous avez moins de pulsations au repos, c'est un signe positif par rapport à votre maladie. Donc il faut essayer de
gamifier, comme on dit dans les applications.
Et de manipuler les indicateurs que l'on est sûr de pouvoir faire bouger dans un temps court pour motiver les gens sur ces indicateurs, expliquant le sens qu'ils ont aussi. Et puis après, en conséquence, un peu plus tard dans le temps, et nous c'est ce que l'on a observé, les gens disent « Ah ben tiens, j'ai perdu 3 kilos, ils n'étaient pas venus pour ça, ils ont perdu un peu de poids ». Et alors après, bien sûr, sur l'obésité, c'est loin d'être simple, et c'est pas qu'un enjeu d'activité physique, et une fois de plus, c'est pas juste en faisant bouger les gens que vous allez y arriver, c'est multifactoriel, psychologique, nutrition, et il faut vraiment avoir une grande coordination interdisciplinaire. La coordination est un élément important aussi. Nous on l'avait, et c'est vrai que c'était un plus.
Je dirais que notre méthode est bonne. Notre méthode est bonne. Si on lance effectivement au bout de 6 mois ces activités auprès de ce public-là, et que très rapidement, c'est même pas très rapidement, c'est dès qu'on les lance, il y a une sorte de, en anglais on dirait onboarding, mais c'est-à-dire on met en place finalement, on les accompagne directement. Tu parlais d'accompagnement téléphonique, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, ça peut être automatisé. Enfin, je veux dire, ça va pas être des agents non plus qui appellent de la ville tous les jours, mais je pense qu'il y a des outils technologiques aujourd'hui pour créer de la présence et le soutien, et réussir cette phase de je te mets sur les rails en fait.
Bien sûr.
Et je pense que là, t'as raison, il faut que le temps soit hyper court, voire une absence de temps, c'est-à-dire Au bout de 6 mois, on a l'écosystème, on a les retours, on met en place et dès les premiers jours, on est sur de l'accompagnement hyper proche, hyper terrain pour motiver, tu l'as dit. Ça va motiver aussi la ville elle-même. Mmh. Enfin, je veux dire, de voir les fruits d'une telle initiative, de voir les personnes se transformer, je pense que c'est hyper important. Donc, je retiens ça. Et à mon avis, la suggestion que je te fais, monsieur le maire, en tant qu'adjoint, c'est effectivement cette dynamique interdisciplinaire d'avoir les aspects psychologiques, donc les professionnels de la santé qu'on pourrait inclure. Donc soit on pourrait les inclure dans ces six premiers mois, et ils sont dès le jour 1 quand on lance et qu'on fait déjà le suivi.
Ah, c'est évident, ils sont incontournables.
Ils sont incontournables, et je pense à un point d'étape 6 mois plus tard avec eux où il faut se remettre autour de la table, voir effectivement avec les mesures qui ont été prises sur 6 mois, je pense qu'on a notre première année en tout cas ambitieuse sur cette thématique-là et pas longue. Pas oui, sur le temps long. Et je critique pas le temps long, il a ses vertus. C'est juste que là, quand on sait l'urgence qu'il peut y avoir sur la sédentarité, si on applique à l'obésité la réduction de l'espérance de vie, hein, clairement, je pense que c'est hyper important d'être le plus agile possible. Tout ne fonctionnera pas, bien sûr, on sait, c'est pas tout beau, tout rose. Par contre, il faut être en mouvement, il faut vraiment impulser et tenter des choses, tester des choses.
Oui, bien sûr. En termes d'innovation sur ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a un élément que je n'ai pas évoqué, mais c'est la co-construction avec les bénéficiaires. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Comment ça doit être organisé dans le temps de journée par rapport à leurs contraintes pour, je dirais, maximiser les chances qu'ils viennent de manière régulière, motivés à ces séances-là. Donc ça, c'est très important. Sur le suivi, effectivement, aujourd'hui, on sait qu'en matière de e-santé, il y a des applications de suivi à domicile qui permettent de prévenir des rechutes sur des maladies graves ou des risques parce que les gens remplissent des petits questionnaires en ligne. Et puis, quand il y a quelques indicateurs avec l'intelligence artificielle qu'on connaît et qui peuvent être déclencheurs d'alerte, ça permet de prévenir, d'éviter certains risques. Donc, on peut tout à fait imaginer du suivi comme ça, de cette motivation par des questionnaires que les gens remplissent. Le fait qu'ils ne le remplissent pas déjà, c'est peut-être un signe, indicateur d'essoufflement en matière de motivation. Je pense que c'est très, très, très important d'utiliser toutes les compétences pour pouvoir relever ce genre de challenge. Et effectivement, commencer assez vite, quitte à faire évoluer le programme, mais assez vite sur un petit groupe déjà, pour pouvoir émettre des indicateurs de performance. Je pense que l'évaluation des politiques publiques, et là, c'est indispensable de le faire sur un projet comme ça innovant. Dire voilà, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça apporte. Alors, on n'est pas toujours dans un investissement qui doit dégager un résultat positif, mais en quoi, en tout cas, le résultat positif, il n'est pas forcément économique. Il doit être sur d'autres critères, parce que c'est la logique de l'engagement public,
l'intérêt
général qui doit aussi primer. Mais ça me paraît très, très important parce que c'est aussi ça qui peut permettre derrière de démultiplier. De se dire bah oui ça marche sur un petit échantillon comme ça, donc vite ouvrons les portes parce que ça a de l'effet, on peut le généraliser. C'est vrai que ça fait défaut. Il y a même des modèles que j'ai vus où des fondations privées sont prêtes à financer l'innovation avec des métriques de performance qui sont définies au début, et si le rendez-vous est au succès, la collectivité qui a fait financer ça ou l'acteur public qui a fait financer ça, pour quelles que soient des problématiques d'insertion sociale, en sortie de prison, l'institution qui a porté cette étude, mais qui ne l'a pas financée, s'engage à financer, elle, puisqu'on a démontré un retour sur investissement de ce genre de choses. Donc ce sont des choses qui existent avec des acteurs privés, acteurs publics, des modèles que j'ai déjà vus.
Très clair. Merci, monsieur le maire.
Merci, Charles Douin. On va aller loin ensemble.
Pour une première année, ouais, elle est ambitieuse, je pense. Et écoute, merci beaucoup, Stéphane. Je te propose les deux dernières questions pour clôturer notre épisode. Et encore, merci de t'être prêté à ce jeu de rôle. T'as pas de casquette d'élu, a priori, donc c'est quand même pas un exercice...
Dans mon club d'athlétisme, c'est tout.
Voilà, naturel, donc merci. Première question. Alors, tu es une source d'inspiration. Ma question, c'est pour toi, c'est qui la personne en tout cas qui t'inspire dans la promotion du sport, pour mettre les gens au sport de manière générale, et pourquoi il t'inspire? Pourquoi cette personne t'inspire?
C'est difficile d'en sortir une. Je travaille avec beaucoup d'acteurs qui sont très, 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 très motivés, que ce soit des acteurs de la santé, des acteurs issus du monde politique. Leur point commun, c'est que ce sont des sportifs d'endurance, parce qu'il faut être, endurant pour faire bouger les choses en la matière. Je pense à François Carré, bien sûr, qui est cardiologue à Rennes et qui est vraiment...
Il a accepté notre invitation sur Bleu Blanc Bouge.
Voilà, qui porte ce combat merveilleusement et avec qui j'aime beaucoup échanger, qui est infatigable, et pourtant il y aurait des raisons d'être fatigué parfois. Et puis à Martine Duclos aussi, qui est médecin, elle à Clermont-Ferrand aussi, que j'ai rencontré depuis longtemps, et qui dirige l'ONAPS et qui contribue énormément à la réflexion sur ces sujets-là. L'ONAPS, c'est l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité.
Super, on les salue tous les deux. Et alors, dernière question, quelle est la ressource que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent? Alors, ça peut être un bouquin, un documentaire, un film, n'importe, une exposition. Et c'est pas forcément lié au sport, mais en tout cas, ça t'a inspiré. Et évidemment, dans tes activités, tu arrives à le retranscrire. Est-ce qu'il y a une ressource récente comme ça que tu aurais en tête à nous partager? On pourra mettre les références dans les notes de l'épisode. Si tu avais un truc à...
Oh, c'est dur, ça. Ressources récentes. Je crois qu'on a besoin d'optimisme aujourd'hui.
Oui.
C'est pas mal. Donc, c'est une lecture. C'est Humanité, une vision optimiste.
OK.
C'est un cadeau qui m'a été offert par un ami.
Les références.
C'est Rutger Bregman, c'est un néerlandais.
Okay. Néerlandais, OK.
Humanité, une vision optimiste.
Voilà. OK, très clair. Eh ben, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci à vous.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Pas que ça se poursuive comme ça, c'est pas mal. C'est pas si mal.
Commenter des médailles.
Ah oui, ce serait pas mal. Ouais. Non, ça serait pas mal. Des médailles en athlétisme, commenter, ouais, ce serait bien, française, hein, parce qu'il y en aura à commenter, mais quelques-unes françaises seraient pas mal. On est quand même à la maison, donc ça serait
Exactement.
Chouette.
Exactement. Génial. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, Mehdi.
À bientôt. À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.